Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Solidaire Informatique, un syndicat représentant des travailleurs et travailleuses des métiers de l'informatique. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Nous recevrons également Captain pour nous parler de son nouvel album, Flamme, et nous réécouterons une chronique sur des mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Voilà le programme de l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est april.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 2 mars 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. La réalisation de l'émission, Adrien Bourmeau, pour sa première réalisation en solo. Salut Adrien.
Salut.
Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm et cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Vous retrouvez ce numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors tout de suite, place à notre premier sujet. Alors normalement, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Clément Oudot, aussi connu sous le nom de scène Captain, K-P-T-N, pour nous parler de son nouvel album Flamme, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY-SA 4.0. Alors salut Clément.
Salut.
Ou devrais-je donc dire Captain. Flamme, Captain, c'était assez destiné comme nom d'album, j'imagine.
Voilà, il y a un petit jeu de mots sur le nom de l'album, et en fait dans les chansons, pour ceux qui les écouteront, vous verrez que dans les textes, il y a beaucoup de... voilà. Ça joue beaucoup avec la langue française et je vous invite à lire les paroles et essayer de trouver tous les petits jeux de mots qui peuvent s'y cacher.
Oui, c'est vrai que tu joues beaucoup avec les mots et alors je vais te préciser d'ores et déjà, donc tu as un site dédié d'ailleurs, enfin une page dédiée à cet album et effectivement pour chacune des chansons, si on clique sur l'image, on a accès à la page de la chanson avec les paroles entières. Et du coup, Flamme, alors à part à la référence, pour ceux qui ne l'avaient pas saisi, à la série d'animation japonaise Captain Flamme, est-ce que c'est un autre sens ou c'était vraiment pour le plaisir de ce jeu de mots?
Ben c'est avant tout pour le plaisir du jeu de mots. Captain Flamme, ça renvoie un peu à ma génération, parce que moi je suis des années 80. Puis c'est un premier album et donc c'est le moment, voilà, de, pour moi c'est l'illumination, si vous voulez, c'est le début de quelque chose. Donc on peut aussi voir la flamme comme cette étincelle là pour démarrer quelque chose.
Très bien. Moi j'y attendais un peu, mais oui, effectivement, c'est joliment dit. Alors du coup, Captain, c'est juste toi, c'est un groupe, comment
Alors Captain, c'est juste moi, mais j'ai eu la chance de me faire aider par des amis, parce que tout seul, je n'aurais jamais réussi à faire tout ça, et donc j'ai été bien entouré. Il y a Corentin Stau, Stanislas Leno, en fait, étaient les maîtres d'œuvre en fait de cet album, et qui m'ont aidé à tout enregistrer et à mettre tout ça en musique. Donc je les remercie, et voilà, je n'ai pas été tout seul dans cette aventure.
Et alors du coup, bon, si on écoute ta musique, tu chantes, et tu joues aussi d'un instrument, comment ça...
Alors, ouais, donc là sur cet album, moi je suis auteur, compositeur, interprète, hein, comme on dit, et je fais toute la partie, toutes les guitares et mandoline, puisqu'il y a une chanson en fait où il y a de la mandoline également, voilà, où j'interprète, voilà, et je chante et je fais les guitares. Et tout le reste de l'album, donc on avait Stan qui est un bassiste, donc toute la basse en fait est une vraie basse avec un vrai musicien derrière, et le reste, donc de l'orgue, de la batterie, a été fait en musique assistée par ordinateur.
Ok. D'ailleurs, je crois que c'est un sujet qui nous tiendra à cœur, la musique assistée par ordinateur. C'est dans le back-office, on va dire, de l'émission. Alors, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Parce que, alors, tu me dis que c'est ton premier album, mais je crois que c'est pas, enfin, on a déjà eu le plaisir de diffuser un morceau que tu avais réalisé. Ouais. T'en es pas à ton coup d'essai, on va dire.
Non, alors moi j'ai fait de la musique tout petit, de la musique classique, puis dans l'adolescence j'ai pris la guitare, puis j'ai commencé à faire des chansons, et 25 ans après, on va dire, j'aboutis à cet album, puisque ça faisait un moment que j'écrivais des chansons et qui étaient pour l'instant un peu dans ma tête, et puis pas beaucoup diffusées, et voilà, il y a 2 ans, je me suis dit, allez, il faut que je fasse un disque, et donc ça c'est la concrétisation de tout ça, mais ça fait très longtemps que... je fais de la musique et que j'ai fait des chansons.
D'accord, donc tu devances ma prochaine question. Donc tu as mis 2 ans à réaliser cet album, du coup.
Ouais. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, il y a eu des conditions qu'on peut changer, mais même sans ça, c'est vraiment pour moi un hobby. Hein. Donc j'ai pris le temps, et puis les gens qui l'ont fait avec moi l'ont fait de manière totalement bénévole également. Donc ça prend forcément plus de temps qu'un professionnel qui pourrait y consacrer plusieurs semaines d'affilée. Donc ça a été fait au fur et à mesure. Toutes les chansons ont été enregistrées des jours différents, et voilà.
Alors tu dis pas musicien professionnel parce que bon, je pense que ça peut intéresser des gens et puis c'est pas anodin finalement qu'on connaisse ta musique puisque tu es informaticien par ailleurs et libriste même. Est-ce que tu peux peut-être voilà aussi te présenter en quelques mots?
Ouais, tout à fait. Moi, je suis plutôt effectivement quelqu'un de technique. Je travaille chez Vortex, qui est une société de services en logiciel libre. Je suis contributeur de projets libres comme les Manel d'App, Adapt Toolbox, donc tout ce qui concerne les annuaires et le SSO. Donc en fait, la plupart du temps, moi, je m'exprime plutôt sur des sujets un peu plus sérieux et un peu plus techniques. Bon, j'ai quand même une passion et un vrai désir en fait de faire du libre dans la partie technique. Et donc, quand j'ai fait de la musique, j'ai trouvé ça assez naturel d'en faire aussi de façon libre. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de faire du Creative Commons.
À nouveau, tu commences ma prochaine question. Oui, justement, j'allais te demander pourquoi tu diffuses ta musique sous licence libre. Tu as déjà commencé à y répondre. Et pourquoi le choix particulier d'une licence qu'on dit type copyleft, c'est-à-dire la Creative Commons by SA, qui permet, on va le rappeler, voilà, la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de ta musique, donc pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de te créditer, d'indiquer la licence, d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et puis si on peut, parce qu'on peut du coup faire un remix par exemple, il faut le diffuser dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec la même licence.
Oui, alors j'ai fait le choix. Alors déjà, de manière un peu simple, parce que comme j'ai dit, pour moi c'est un hobby, donc déjà je n'avais pas d'enjeu par rapport à la monétisation en fait de ce travail-là, j'ai pas besoin de ça pour vivre, donc ça c'est un des premiers, c'est plus facile pour moi en fait qui fais ça en amateur de faire ce choix-là, peut-être que pour des professionnels, et après il y a vraiment une conviction de dire que ce qu'on fait, ce qu'on produit, pour moi, doit pouvoir être alors librement diffusé, c'est effectivement une des premières choses, mais librement réutilisé. Voilà, moi je crois beaucoup à l'écosystème du libre, que ce soit dans le logiciel comme dans la culture. Et donc c'est vraiment par conviction personnelle que j'ai voulu faire ça. Évidemment, en fait, je serais même plutôt ravi qu'il y ait des gens qui trouvent que ce que je fais soit assez bon pour être repris dans d'autres contextes. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais peut-être que ça le sera.
Alors pour le clin d'œil, Fred nous dit sur le salon web de l'émission qu'il boit justement son café dans un mug Vortex. Tu vas parler de tes engagements, donc tu es engagé pour la liberté informatique et on sent quand même aussi par ailleurs dans ton album un engagement on va dire politique plus large, alors d'égalité homme-femme, l'écologie aussi me paraît assez présente dans tes chansons. C'est important pour toi d'exprimer ces convictions dans ta musique ?
Oui, alors après, ça fait un peu Miss France hein, de dire que on est contre la guerre, pour l'écologie, etc. Après, ça fait jamais de mal en fait de le redire déjà, je pense, premièrement. Et d'autre part, j'ai essayé de traiter ces sujets-là, bien sûr qui me tiennent à cœur, mais de façon un peu décalée. Donc avec à la fois c'est un peu ces calembours, mais voilà, de trouver une façon d'exprimer ces choses-là. Voilà, sur l'écologie, la chanson de l'écologie, en fait, s'appelle le musée d'art contemporain. Et donc j'ai imaginé que, alors dans quelques années, j'espère le plus loin possible, mais les enfants iraient dans un musée pour voir ce que c'était que de l'air pur, de l'eau, etc. Et donc imaginer un peu cette dystopie-là. Voilà, cette chanson-là, elle a été faite comme ça. Il y a plein d'autres façons de traiter ces sujets-là. Des sujets parfois graves, hein. J'ai eu des remarques. J'ai une chanson sur le suicide, une chanson sur l'alcoolisme, donc qui ne sont pas des sujets simples, mais que j'essaie de traiter de manière un peu décalée. J'espère que c'est réussi.
Bon, je trouve en tout cas, et d'ailleurs, Musée de l'art contemporain sera une des chansons qu'on va diffuser, parce que les trois pauses musicales seront des morceaux tirés de ton album. Et d'ailleurs, avant qu'on se quitte, le premier morceau que nous allons écouter dans quelques instants, À toi de jouer, est un duo sur le thème, justement, tu me le disais avant l'émission, sur l'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire en quelques mots ce titre et comment s'est mis en place ce duo notamment?
C'est ça, il y a une histoire un peu particulière sur cette chanson. Donc je travaille dans le logiciel libre, mais je travaille dans un lieu de coworking qui s'appelle La Cordée. Donc il y a beaucoup d'entre nous qui font du télétravail. Et donc dans ce lieu de coworking, j'ai rencontré pas mal de gens, dont des personnes qui faisaient de la musique, donc qui m'ont aidé à faire cet album, et un groupe qui s'appelle Seven Friday, qui chante en anglais, et qui m'a demandé de leur écrire une chanson en français sur le thème du féminisme, qui était quelque chose d'assez compliqué pour moi, étant n'étant pas une femme, je me demandais ce que je pouvais bien pouvoir dire, en fait, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir apporter, en fait, là-dessus. Et donc, j'ai décidé de créer une chanson qui parle un peu de l'égalité homme-femme. Et quand ils l'ont eue, ils n'ont pas pu la mettre sur leur album. Et donc, on l'a enregistrée après. Et au final, cette chanson que j'ai écrite pour eux, on l'a enregistrée en duo et elle est arrivée sur mon album. Et comme ça, en fait, j'ai publié cette chanson-là.
Super. Voilà. Bah, belle histoire. Bah, écoute, bah, je te propose, nous allons écouter ce morceau. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec nous, Capitaine, du coup, Clément. Bah, puis, je te souhaite voilà,
merci pour votre invitation.
C'est... Avec plaisir. Et puis, voilà, au plaisir d'échanger à nouveau. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Alors, bah, nous allons justement faire une pause musicale. Et nous allons donc écouter « À toi de jouer » par Captain. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Les dés sont jetés à l'avance, les jeux sont faits. Car Sophie, quelle importance, la vie te donne une carte chance, à toi de jouer.
Sur l'échiquier, être la reine ou le roi, ça tu sais, on ne choisit pas, crois-moi. Prochain coup que tu joueras, il ne dépend que de toi. Il faut apprendre à te défendre, à ne pas te laisser surprendre par l'adversaire. Celui qui te met dans des cases, qui de ses convictions t'écrase, te met à terre. Dans ta main, tu es la dame ou le roi. Ça, tu sais, on ne choisit pas, crois-moi. Mais la prochaine carte qui tombera, elle ne dépend que de toi. C'est dans les règles du jeu des lois de la nature. Mais bats-toi contre le destin, évite qu'il ne marque des points sur ta figure. La bataille ne reste pas sur le carreau. Durcis ton cœur, que la place du bourreau. Le prochain coup Sophie, quelle importance, la vie te donne une carte chance, à toi de jouer.
Nous venons d'écouter « À toi de jouer » par Captain, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre donc par notre sujet principal, le syndicalisme dans les métiers de l'informatique, et plus précisément de Solidaire Informatique, un syndicat des travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. Avec Nadine Stéphan qui doit être avec nous au téléphone. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour Étienne.
Super, et Thomas Luquet, qui est présent avec nous en studio. Tous deux, voilà, vous êtes adhérents et adhérentes donc, de Solidaires Informatique. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc bonjour Nadine, bonjour Thomas. Une question, somme toute très classique pour commencer. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? D'abord Nadine qui a par téléphone.
D'accord. Moi je suis donc Nadine Stéphane, je suis membre du bureau national de Solidaires Informatiques. Je suis engagée syndicalement maintenant depuis 12 ans, dont une grande partie maintenant à Solidaires Informatiques. J'ai par ailleurs des mandats en entreprise, en CSE, je suis déléguée syndicale. Et je suis également défenseur syndical depuis un an environ. Alors, juste pour dire un petit peu les conditions de mon engagement à Solidaires Informatiques, je suis arrivée par conviction ancienne, en fait, et constat de nécessité au vu des conditions sociales dans l'entreprise. Hein, mais ça s'était pas pour l'instant traduit par un engagement formel syndical. Mais voilà, je suis venue comme ça en voulant mettre en action en fait mes convictions. Et je suis donc salariée d'une grosse structure SS2I, donc Société de Services Informatiques. Je dis ce terme-là volontairement, c'était l'ancien nom et que beaucoup le connaissent, qu'on appelle maintenant ESN, Entreprise de Services Numériques. Et je travaille plus précisément dans une filiale software RH. Voilà.
Ok, merci. Thomas Luquet.
Salut, du coup moi je suis syndiqué depuis 3-4 ans maintenant, et je suis libriste aussi depuis un peu plus longtemps, sous Linux, et je suis pareil donc dans une SS2I, donc une société de services, où je suis développeur, enfin je viens de quitter le monde du développement pour passer du côté agile de la force, c'est-à-dire être un peu plus dans l'organisation des projets et des développeuses et développeurs dans l'informatique.
Ok. Une question que j'aime bien que j'aime poser pour en introduction, et je pense que du coup Thomas tu vas être parfaitement indiqué pour y répondre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi le logiciel, quand on parle de logiciel libre? Si tu parles du CIB, qu'est-ce que ça t'évoque? Comment tu le présentes aux gens?
Alors, ça dépend à qui je parle, mais pour répondre à la question, qu'est-ce que ça m'évoque, pour moi, c'est le refus de la propriété et des brevets, et qui est un point hyper important. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais Solidaires, c'est un syndicat qui se veut engagé, qui se veut militant, politique, et un des problèmes qu'on trouve, je pense, dans nos sociétés, c'est qu'on met de la propriété privée et des brevets partout. Et justement, passer au logiciel libre, c'est justement refuser cette propriété privée et qui est abusif, et ça permet de faire avancer la technique, la science et les connaissances de manière générale. Et donc voilà pourquoi je suis libriste. Donc, il y a des raisons politiques et des raisons techniques. Je pense que pour les deux, c'est hyper important.
Bien sûr. Nadine, est-ce que tu souhaiterais compléter?
Non, pas vraiment. Je pense que Thomas est tout à fait plus compétent que moi sur le sujet. Tout de même pour une précision par rapport à notre syndicat qui, en fait, dans son congrès 2020, avait présenté une motion sur le logiciel libre. Donc, comme disait Thomas, en effet, c'est fait partie des enjeux et des points importants pour notre syndicat que de revendiquer le logiciel libre. En fait.
Je crois même que c'était un peu avant 2020. Mais bon, ouais, faudrait qu'on regarde les dates. Mais ça fait quelques années qu'on a pris
C'est récent en tout cas,
oui. Ouais. Oui, l'important, c'est l'objet. On va y revenir, je vous propose, parce qu'on va quand même, on va évoquer, bien sûr, le rapport qu'a Solidaires Informatique avec le logiciel libre, tant dans ses pratiques que dans ses revendications. Peut-être que ça peut être intéressant, peut-être d'aborder de manière plus générale. Déjà, qu'est-ce qu'un syndicat? C'est vrai que c'est un terme qui est dans le langage courant, qu'on entend régulièrement parler. C'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'est un syndicat, quel est son rôle. Voilà. Qu'est-ce qu'un syndicat, Nadine Stéphane?
Alors en fait, déjà un syndicat, sans parler précisément ce d'informatique, c'est un regroupement de travailleurs et de travailleuses. Alors ça peut être assez large, la notion de travailleurs et travailleuses, on pourra en parler peut-être plus précisément après, mais qui organise la défense de ses intérêts. Donc si on rentre peut-être plus particulièrement sur Solidaires Informatiques, ce qu'on peut dire c'est que c'est un... Mais je sais pas si on veut orienter vraiment dans le détail pour l'instant la réponse, je sais pas. Si je dois préciser un peu, Solidaires Informatiques, c'est un syndicat de l'Union syndicale solidaire. Et cette notion d'union syndicale, elle est importante aussi puisqu'elle fédère en fait un ensemble de syndicats. De syndicats de branche, mais de syndicats. Alors, quand je dis de branche, ça veut dire de secteur professionnel, en fait, et de syndicats locaux aussi, parce qu'on est organisé de cette façon-là, y compris à Solidaires Informatiques, donc à un niveau plus fin. Et donc, Solidaires Informatiques est adhérent de cette union syndicale. Nous, on existe à peu près depuis 2011. L'union syndicale solidaire, elle a été créée en 1981. Donc, c'est vraiment le regroupement des travailleurs et des travailleuses, nous, en l'occurrence, de l'informatique. Donc, et plus particulièrement dans notre secteur, ça ça touche à la fois l'informatique en général, mais on a aussi des cabinets de conseil, des jeux vidéo, enfin voilà.
Je crois que Thomas souhaitait compléter.
Ouais, concrètement, c'est vrai que c'est défendre des intérêts, c'est exactement ce qu'a dit Nadine. Ça veut dire quoi, nos intérêts de travailleurs? Il y a évidemment la question des salaires, mais il y a un peu plus, il y a la question des retraites qui sont pas directement liées à notre entreprise, mais qui sont liées au niveau national. Donc il y a des combats un petit peu comme ça. Et ça peut être aussi le temps de travail. Bah voilà, est-ce qu'on fait les heures sup, est-ce qu'on fait pas les heures sup? Et puis après, il y a d'autres choses qu'on fait dans un syndicat. On réfléchit, on pense, on a un groupe, on imagine un futur meilleur et on s'organise pour pouvoir obtenir des nouveaux droits. Donc les nouveaux droits, ça peut être tout simplement avoir une machine à café gratuite, jusqu'à effectivement des trucs plus sérieux comme d'avoir un vrai système de retraite qui nous servira dans le long terme.
Très bien.
Il y a d'autres trucs un peu cachés. Moi, j'ai découvert ça en étant syndiqué. Il y a aussi un côté un peu des fois psy sur les bords où il y a un tel qui s'est fait engueuler par le patron et c'est aussi le rôle du syndiqué, je crois. Nadine, tu me reprendras d'aller voir, d'aller discuter, d'aller rassurer, d'aller dire qu'on va la défendre ou le défendre quand il y a des soucis X ou Y dans le monde de l'entreprise. Parce que je vous l'apprends pas, le monde d'entreprise n'est pas toujours parfait et parfaitement rose. Donc, on a un rôle à jouer. Et on est souvent, comme Nadine l'a dit, les syndicats sont souvent élus dans des conseils représentatifs au sein des entreprises, notamment le CSE, donc le comité social et économique, où on doit porter la parole des syndiqués et des salariés, de manière générale, auprès de la direction pour que, justement, faire un peu le dialogue et réussir à obtenir des droits qui ont demandé les salariés. On fait un peu le porte-parole des salariés, souvent.
D'ailleurs, je pense que c'est une notion importante. Je vais te passer, bien sûr, la parole, Nadine. Non, simplement, Thomas mentionnait les élections et je crois que les syndicats ont vocation à avoir un fonctionnement démocratique pour représenter de manière démocratique l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Alors, je vois, Thomas opine la tête. Je pose naïvement la question. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter là-dessus? Moi, Nadine, tu souhaitais réagir par ailleurs.
Oui, je souhaitais compléter un petit peu ce que disait Thomas, en effet, parce que au-delà d'une activité de porte-parole de salarié, on va bien au-delà, c'est-à-dire qu'on représente l'intérêt de la profession de façon générale, et c'est pas seulement être l'intermédiaire ou un peu le tampon entre les salariés et l'employeur, mais c'est bien s'assurer que les droits des salariés tels qu'ils sont édictés par la loi, par les accords, etc., sont bien respectés, et faire notre rôle de syndicat en les faisant respecter s'ils ne le sont pas, et en négociant, comme disait Thomas tout à l'heure, en négociant des avancées sociales également. Mais je voulais juste intervenir en fait sur le positionnement peut-être très particulier de Solidaire Informatique et de l'Union Syndicale Solidaire, c'est qu'on est au-delà de la défense des intérêts des salariés sur le plan social, on est aussi très présent et c'est très important pour nous sur des enjeux sociétaux, c'est-à-dire en fait des actions en termes de lutte contre par exemple le sexisme, des luttes féministes, la lutte contre le racisme, l'écologie, enfin un certain nombre de sujets d'éthique et sociétaux qui sont très très importants pour nous également.
Oui, ça faisait partie des sujets que j'aurais aimé qu'on aborde, et on peut l'aborder tout de suite d'ailleurs. Et effectivement, ça se voit notamment si on va sur le site de Solidaire Informatique, dans les différentes prises de position politiques. Hein, on voit qu'effectivement, d'ailleurs, dans le bandeau, ça, vous parlez de l'engagement antiraciste, antisexiste, pro-féministe, etc. Vous n'êtes pas strictement, c'est ce que tu disais, dans la représentation des travailleuses et travailleurs, mais dans un engagement politique plus large, si en gros je résume à gros traits ton propos.
Tout à fait.
Un aspect qui me paraissait intéressant, c'est cette notion de travailleuse-travailleur, alors qui est mise en avant, travailleur du numérique, il me semble, sur le site que tu as commencé à évoquer, Nadine. Qu'est-ce que vous représentez strictement les salariés, que les travailleurs-travailleuses? Et je vais joindre une question que m'a posée un membre de l'April en amont de l'émission, qui, je pense qu'elle est en lien, qui aimerait savoir si votre syndicat fait des actions pour les personnes, par exemple, en recherche d'emploi. Est-ce que, est-ce que si les personnes au chômage sont des travailleuses-travailleurs?
Alors,
Thomas Luquet.
Pour les personnes en recherche d'emploi, je sais que de temps en temps, il y a des CV qui passent qu'on peut essayer de faire, mais je ne crois pas que ce n'est pas notre activité principale. En revanche, on syndique les retraités, très clairement, de l'informatique.
Nadine, tu souhaiterais compléter?
Oui, tout à fait. Ce que dit Thomas, en fait, c'est vrai que donc on syndique les retraités. On s'est beaucoup posé de questions sur l'évolution aussi du travail dans la société au sens large, à savoir notamment le développement qu'on déplore, mais qu'on ne peut que constater de l'auto-entrepreneuriat et de toute cette forme de travail qui fait perdre aux gens une certaine protection sociale. Donc, on syndique aussi comme on dit, travailleurs et travailleuses, on ne dit pas salariés. Donc, c'est aussi des auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses qui syndiquent, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes employeurs. des sous-traitants. Et c'est vrai que sur la question des chômeurs, on a, nous, malheureusement, des adhérents qui deviennent chômeurs. Ils sont toujours bienvenus dans, et ils continuent souvent pour beaucoup d'entre eux parce qu'on aménage justement l'adhésion de telle sorte qu'elle n'ait pas de coût, quasiment pas de coût pour eux. Mais on n'a pas de démarche, comme tu demandais, Étienne, de démarche spécifique envers les chômeurs et chômeuses. Juste pour finir là-dessus, je pense que ça tient aussi au fait que pendant longtemps, c'est peut-être de moins en moins vrai, mais pendant longtemps, il est vrai que le secteur de l'informatique était tellement florissant que perdre son emploi n'était absolument pas une difficulté ou quasiment. Depuis quelques années maintenant, ça devient un vrai problème, notamment pour des populations plus âgées. Mais c'est vrai que ce n'est pas dans nos actes pour l'instant d'action.
Oui, c'est intéressant. Effectivement, les syndicats évoluent aussi dans la réalité des contextes dans lesquels ils se situent selon les secteurs. Thomas, j'ai l'impression que tu souhaitais réagir, enfin compléter.
Non, Nadine a dit l'essentiel, mais effectivement, dans notre profession, il y a un truc qui est spécifique, c'est qu'on a un emploi qui est quand même assez fort, notamment chez les jeunes. En revanche, passer la barrière des 45-50 ans, il y a des salariés qui se font mettre au placard et il faut en parler parce que, genre, les gens de mon âge ne voient absolument pas le truc arriver, mais voilà, quand t'as 55 ans, que t'es expert en COBOL,
un langage de
programmation, mais qui était très utilisé dans les 70, 80, et qui aujourd'hui commence un petit peu à être moins demandé, il y a de la répression sur les vieux salariés qui, arrivent en fin de carrière, ont un gros salaire et ne sont plus hyper utiles sur le marché de l'emploi, et il y a vraiment des scandales qui se vivent là-dessus, où des salariés d'informatique se font virer de manière malpropre.
Entendu. Alors, je vais relayer deux questions qui se rentrent dans ce sujet, qui sont sur le salaire web de la radio, donc de Marie-Odile, qui vous demande si vous défendez également les travailleurs et travailleuses du CLIC. Donc, elle fait référence aux travaux du chercheur Antonio Cassilli. Et Laurent demande si vous êtes impliqué d'une manière ou d'une autre dans les luttes contre les grosses plateformes telles Uber.
Alors, sur je sais pas si Thomas veut répondre.
Ouais, sur le CLIC, on a fait venir des experts pour justement nous parler un petit peu de ce sujet-là. C'est très difficile de syndiquer ces gens-là parce qu'ils sont justement derrière des plateformes. Je pense Amazon Truck et ce genre de choses. C'est très difficile de les contacter. On sait pas qui ils sont. On sait pas comment ils travaillent. C'est des gens qui ne viennent pas frapper à notre porte. Souvent, c'est des gens qui d'ailleurs n'habitent pas en France et qui habitent en Inde, ce genre de choses. Donc, on aimerait bien faire quelque chose là-dessus. Si vous avez des contacts, si vous êtes travailleuse ou travailleur du CLIC, n'hésitez pas à nous contacter parce que vraiment, il y a un boulevard qui s'ouvre là-dessus et une exploitation horrible qui est en train d'avancer là-dessus. Mais c'est vrai que, un syndicat, en général, ça commence quand il y a deux personnes dans une même entreprise qui se parlent à la machine à café. Quand chacun est derrière son PC à distance dans des pays éloignés, on sait pas encore comment faire. En tout cas, je pense qu'on a une marge de progression à faire là-dessus. Et enfin, donc les grosses plateformes sur Uber, on n'a pas de, je crois pas qu'on ait de syndiqués chez eux, ni dans les VTC de manière générale. Après, est-ce qu'on est pour ces plateformes-là? Non, parce qu'évidemment, c'est l'exploitation des travailleurs. Voilà, on n'aime pas cette, on pense que c'est pas le meilleur contrat que d'être auto-entrepreneur, et on le voit, il y a des auto-entrepreneurs dans l'informatique. On en a parlé depuis quelques temps, on a changé notre règlement intérieur pour justement syndiquer des auto-entrepreneurs qui étaient considérés comme des patrons entre guillemets, alors que socialement c'est pas exactement ça. Nadine, tu...
Oui, je crois
que... c'est pareil, là j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter. C'est vrai que sur les travailleurs du CLIC, c'est un sujet et Thomas connaît particulièrement parce qu'il est lui-même adhérent de cette section territoriale qui est solidaire informatique Île-de-France, avait été un sujet de réflexion apporté par un de nos adhérents. C'est vrai que c'est des réflexions qu'on mène, mais qui pour l'instant, comme disait Thomas, n'aboutissent pas. Et pour l'auto-entrepreneuriat, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos statuts ont évolué récemment, justement, pour syndiquer les travailleurs de plateformes et des auto-entrepreneurs, comme je disais, sous réserve qu'ils ne soient pas eux-mêmes des employeurs, quoi.
Oui. Voilà. Entendu. Alors, du coup, je pense que c'est pas non plus complètement dedans. Tu parlais de la distance, de se retrouver autour dans une même entreprise et d'échanger pour pouvoir commencer à syndiquer. On voit bien peut-être aussi que c'est pas complètement anodin que certaines grandes entreprises capitalistes fassent en sorte que justement les personnes ne puissent pas se retrouver, que ce soit en les mettant en distance ou en passant par des statuts comme notre auto-entrepreneuriat. Alors du coup, ça met une question de savoir sur, donc vous êtes engagé sur, de manière générale, on va dire, les métiers de l'informatique. Hein, vous avez déjà expliqué que ça se décline sous différentes manières. Alors est-ce que c'est, je parlais de secteur, est-ce que c'est un secteur qui est fortement syndiqué, peu syndiqué? Alors c'est ce que m'a semblé comprendre. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça évolue? Thomas Luquet,
Nadine, tu veux commencer?
N'importe. Je réagis un peu par rapport à ça, parce qu'il y a plein de sujets là-dedans, en effet. Alors, je voudrais juste rebondir sur travail des... Pardon?
Bien sûr, non, je t'invite à le faire, excuse-moi, je t'interromps.
Oui, je voulais juste parler du télétravail un peu rapidement, mais peut-être moins qu'on y revienne un peu plus loin.
On pourra y revenir, mais je t'en prie, oui.
Parce que tu évoquais en fait le fait que les sociétés organisent la mise à distance des travailleurs justement pour éviter cette fédération un peu de force pour défendre ses intérêts. C'est un sujet de fond sur lequel il faudra qu'on réfléchisse très sérieusement aussi, parce que le télétravail qui était jusqu'ici, de ce que je vois moi, de ce que je constate, le télétravail était un problème culturel des entreprises par manque de confiance envers leurs salariés. Du fait du confinement, de la pandémie est devenu très massif dans nos secteurs et sur lesquels les employeurs voient tout l'intérêt, tout le bénéfice qu'ils auraient à ce mode de fonctionnement, en mettant bien sûr en œuvre tout ce qui leur permet de se sécuriser et d'assurer, mais qui empêche les gens de communiquer entre eux, qui permet de faire des économies, etc. Donc c'est un gros sujet de réflexion. Mais par contre, pour revenir sur la syndicalisation du secteur, ben, comme toutes les entreprises, comme tous les secteurs, la syndicalisation est forcément un peu difficile. Elle est parfois plus difficile dans le secteur de l'informatique parce que justement les gens sont beaucoup à distance. Voilà, je pense que c'est pas forcément pire qu'ailleurs, mais c'est quelquefois difficile aussi parce que c'était une population relativement bien traitée au niveau salarial pendant de nombreuses années, avec des statuts de cadre, même si dans le métier, c'est pas forcément des cadres, mais voilà, ça a créé une population quelquefois un peu confortable, qui s'est un peu éloignée du syndicalisme, mais que je pense voir revenir un peu avec les plus jeunes notamment, qui souffrent plus malheureusement des conditions actuelles.
Thomas, tu souhaites réagir ?
Elle a dit l'essentiel. Je pense qu'on est, effectivement, moi, je le vois dans mon entreprise, on a la trentaine, on est dans la Startup Nation, tout va bien dans le meilleur des mondes, regardez, on a un baby-foot, c'est formidable. Et du coup, les gens se posent la question de pourquoi se syndiquer, puisque mon salaire est à peu près correct, que j'ai un baby-foot et qu'il y a café gratuit. Ça marche 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis à un moment, il y a des coups de pression qui commencent à arriver, il y a des objectifs un peu chiffrés qui commencent à arriver, et il y a un peu de la pression. Je pense que un des points qu'on a à gérer en tant que syndiqué, c'est la maladie qu'on sur notre travail, il y a peu d'accidents du travail, mais par contre il y a des burn-out dans le milieu des ingénieurs et des CS2I. Du coup là on commence un petit peu à syndiquer. Et après effectivement les gens qu'on arrive à syndiquer, c'est les gens qui sont assez ouverts politiquement, assez engagés, notamment les libristes, voilà, ces gens-là se syndiquent un peu plus que les autres, j'ai l'impression. Et voilà, mais c'est sûr que quand on a un gros salaire, on a un salaire de cadre moyen, les gens ne comprennent pas l'intérêt, ils ont l'impression d'être dans une classe qui fait d'eux des biens, et la société les met en avant, etc., etc. Donc il faut un peu de temps. Effectivement, les très jeunes et je pense les très vieux, eux, sont plus fragiles sur ces questions-là. Et donc dans ces fragilités, en général, là, effectivement, ils viennent voir les syndicats pour avoir un peu d'aide. Voilà. Et puis un dernier point, je pense aussi, c'est les écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, c'est des milieux qui sont très peu politisé, où ça éveille peu les réflexions politiques et syndicales. Et du coup, effectivement, bah, quand ils arrivent en entreprise, bah, ils n'ont pas ces réflexes-là. Quoi.
Entendu. Alors du coup, bien sûr, Nadine.
Pour avoir un panorama un peu plus exhaustif peut-être, moi je voudrais revenir sur le secteur du jeu vidéo, qui est un peu atypique dans ce milieu-là et qui fait partie aussi de notre champ de syndicalisation. Globalement, ce qu'on entend dire et ce qu'on constate, c'est que nos camarades salariés du jeu vidéo sont beaucoup moins bien traités que...
Clairement.
Et puis même si ça s'est beaucoup dégradé aussi hein, dans les services, etc. Mais le jeu vidéo, comme c'est en plus sur des activités entre guillemets plaisir, voilà, où les gens investissent aussi beaucoup cette activité parce qu'ils sont vraiment passionnés, il y a vraiment des conditions particulièrement mauvaises et ce côté-là, peut-être que la syndicalisation sera plus forte assez rapidement.
Tout à fait, ouais, je suis hyper d'accord avec ce que dit Nadine. Tout ce que je viens de dire à l'instant n'est pas vrai pour le jeu vidéo. Le jeu vidéo, justement, la tension sur le marché de l'emploi, elle n'est pas du tout pareille. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans le milieu du jeu vidéo. Et du coup, bah, les employeurs en profitent pour faire baisser les salaires et imposer des charges, imposer ce qu'on appelle le crunch, qui est un moment où on pressurise les travailleurs juste avant le lancement d'un jeu vidéo. Et ça crée des problèmes très graves. Et du coup, effectivement, moi j'ai l'impression qu'en ce moment, on a une petite. On a de plus en plus de syndiqués qui viennent du milieu du jeu vidéo parce qu'ils se rendent compte de l'exploitation, des problèmes qu'il y a dans leur boîte. Quoi.
Oui, c'est vrai qu'on a vu, alors j'ai pas les exemples en tête et on pourra les mettre si les gens y pensent dans les références. On a récemment des exemples réguliers de scandales dans des grandes productions de jeux vidéo.
Typiquement, on est, responsable. On a fait les choses en place pour que c'est à. Ah là, j'ai un trou évidemment. On a un des grands boss de... Ah, j'ai oublié le nom de cette entreprise française
Ubisoft.
Très connue. Ubisoft, voilà.
Et Quantic Dream. Ouais.
Voilà, un des boss de Ubisoft a quitté l'entreprise officiellement pour faire du jardinage. Nous, on considère que c'est parce qu'il y a des vraies questions de sexisme au sein de l'entreprise qui se sont passées. Et voilà, on a fait une campagne, on a expliqué les choses, on a recueilli des témoignages. Et même juridiquement, ça s'est passé. Du coup, les choses commencent un petit peu à bouger sur la question du sexisme dans le milieu du judo, qui est un énorme problème. Voilà. Et du coup, ouais, la section syndicale de Ubisoft a fait un travail exemplaire, à mon avis, là-dessus.
Oui, alors du coup, c'est pour revenir, donc, oui, c'est vrai que vous êtes organisé dans des différentes sections avec différentes, qui représentent différentes entreprises, différents types de secteurs. Donc voilà, Ubisoft, enfin, je vais toute la liste, on va la retrouver effectivement sur le site. Alors avant qu'on fasse une pause musicale, moi, j'ai une question. Alors, on a clairement compris qu'effectivement, alors, moi, que je n'ai rien compris, que les syndicats sont des organisations politiques, elles mènent un combat politique. Quelle est la différence avec un parti politique, justement ?
On se présente pas aux élections. On n'a pas. Voilà, on se présente pas aux élections. Si on revient à la charte d'Amiens, qui est un texte qui a été voté en 1911, dont on se revendique un petit peu, l'objectif, c'est l'autogestion par les syndicats des entreprises. C'est ça notre objectif final. Donc, on veut pas gagner aux élections. On veut que les syndiqués gèrent l'entreprise en autogestion. Bon. Je crois que ça va pas arriver demain, mais on se bat tous les jours pour. Et voilà. Et du coup, bah, ça veut dire changer la vie des salariés et changer le monde. Mais ça veut pas dire s'inscrire dans un schéma politique traditionnel. On veut pas aller aux élections, on veut pas se présenter, on veut pas se rentrer dans le jeu de la République. C'est pas ça notre objectif.
Nadine, tu souhaites compléter ou tu te...
Non, bah, je pense que c'est très clair. Les propos de Thomas sont très clairs et posent bien le cadre d'intervention
peut-être,
du syndicat. Ouais. Mmh.
Peut-être pour repréciser, on a quand même des avis sur le monde et sur les politiques qui sont en train d'être menées. Hein. Quand le gouvernement nous propose une réforme des retraites, bah, évidemment, on n'est pas d'accord parce que c'est un désavantage pour les salariés. Et du coup, bah, on n'hésite pas à critiquer le gouvernement là-dessus. On n'hésite pas à faire des manifs, des grèves pour justement exprimer notre mécontentement et faire en sorte qu'il écoute les gens et pas ses intérêts à lui.
C'est très clair. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, le texte du Charte d'Amiens est un texte intéressant à lire, qui n'est pas particulièrement long non plus et qui précise bien effectivement l'organisation entre partis politiques et syndicats.
Et religion aussi. On est...
Pardon ?
Je crois que c'est écrit, voilà, on refuse d'incorporer à l'intérieur du syndicat les problèmes ou les questionnements des partis politiques et des sectes, sous-entendu la religion. Je crois que c'est ça. Mm-hmm. C'est un peu daté. Non, mais
c'est fondateur.
C'est fondateur.
Super. Et ben, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale pour s'aérer les méninges. Nous allons écouter, comme nous l'avons dit, le Musée d'air contemporain, le deuxième morceau de Captain. On se retrouve dans 3 minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Cause commune. C'était l'hiver, le jour de la sortie scolaire, au musée d'air contemporain. La lutte des classes pour les professeurs qui menacent les gamins qui ne contemplent rien. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos. Et puis moi je trouvais ça beau. Un guide austère nous dépeignait l'histoire de l'air, la période bleue, la période noire. Si la planète était une grande palette, avec le trou de la couche de jaune, on voyait dans les petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça chouette. Il y avait de l'air, il y avait du vent, de la verdure dans les prairies. Oui, mais maintenant la terre, le ciel, les océans, ils sont tout froids, ils sont tout gris. On voyait dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des
animaux dans des bocaux, des armes dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau. Fin de la visite, on se dirige vers la boutique du musée d'air contemporain. Bouteille d'eau claire, sachet de terre et bonbonne d'air, fruits et légumes en parfum. Voyez dans des petites fenêtres des photos pas très nettes de l'état de l'air de la planète. Des animaux dans des bocaux, des arbres dans des frigos, et puis moi je trouvais ça beau.
Nous venons d'écouter le Musée d'air contemporain par Captain, disponible sous licence libre Creative Commons, partagé dans les mêmes conditions, CC BY SA. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April, et nous discutons avec Nadine Stéphan et Thomas Luquet de Solidaire Informatique, un syndicat de travailleuses et travailleurs des métiers de l'informatique, du conseil et du jeu vidéo. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors, on a commencé à l'évoquer dans la première partie de notre échange, la question voilà, du logiciel libre, l'usage du logiciel libre dans votre syndicat. Alors, c'est vrai qu'on a une émission qui est consacrée notamment aux libertés informatiques, et ce sujet nous intéresse au premier chef. Alors, en gros, je pense qu'il sera intéressant de voir c'est quelle est la place du logiciel libre déjà dans vos pratiques, et puis dans vos revendications en tant que sujet politique. Alors, peut-être, aux premières questions, avant de rentrer dans spécifiquement le logiciel libre, comment vous êtes organisé point de vue système informatique, Solidaire Informatique, voilà, vous êtes autonome, il y a un syndicat, un système informatique, de Solidaire en général, comment ça s'organise?
Alors, les syndicats sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que Solidaire Informatique a ses propres systèmes, que d'autres, et les autres solidaires, donc Sudrail ou d'autres, ont leurs propres trucs. Au sein de Solidaire Informatique, on a un serveur à nous qui est sur Nextcloud, où on a un agenda partagé, on a aussi un Gisti, donc qui nous permet de faire de la visioconf. On était sur TeamSpeak avant, on est tous contents d'avoir passé sur Gisti, quasiment. Notre blog est géré par WordPress, et on travaille beaucoup encore, on en parlait tout à l'heure, sur MailingList, où en fait l'essentiel de nos échanges est sur MailingList. Et après, quand on doit faire des points syndicaux, donc on fait des points mensuels, qu'on appelle le conseil syndical, on le fait par Gisti, où on échange, on prend des décisions qu'on doit prendre.
C'est spécifique à la période, ça, ou ça a toujours été le cas ou...
Non, alors, donc ce que je disais, c'est qu'avant, on faisait nos réunions entre midi et deux sur TeamSpeak, qui était un logiciel un peu de gamer, d'ailleurs, open source, qui permet de faire des conférences audio à plusieurs. Et non, du coup, on a continué la pratique. On se voit ensuite en groupe, parce qu'il y a des gens de toute la France, donc on ne peut pas ramener tous les gens à Paris ou même ailleurs tous les mois, c'est pas possible, il faut qu'on prenne des décisions rapidement. Du coup, le Gisti, c'est tous les mois, ça permet aux gens de toute la France de se connecter. Et après, les Parisiens se voient entre eux en physique parce qu'on a un local rue de la Grange-Aubelle, pareil, une fois par mois à peu près.
Ok. Comment vous...
Ça dépend. Juste pour préciser, parce que c'est vrai que c'est pas toujours aussi vertueux que ça. La question se pose en effet de mettre en adéquation ses valeurs au quotidien, hein, et d'utiliser des outils. Ce que disait Thomas est tout à fait juste. Et par exemple, les outils qu'on utilise pour les réunions, les comptes rendus, ce sont des outils du libre au maximum au niveau du bureau, du conseil syndical, etc. Quelquefois, au niveau des sections d'entreprise, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Voilà, il n'y a pas de choses centralisées, non, mais en permanence, c'est un sujet qui revient dans les discussions, dans les débats, dans voilà, les outils utilisés pour rédiger les tracts, etc.
Oui, effectivement, chaque entreprise, des fois, ses pratiques locales ne respectent pas toujours à 100% les trucs. Nous-mêmes, des fois, on utilise des trucs de chez Google. Mais effectivement, au niveau parisien, au niveau national, on est 100% libre.
Okay.
Et c'est un truc qui a été voté, acté, comme un outil de développement et d'axe il y a quelques années.
Et du coup, oui, c'est une décision politique, du coup.
Ouais, c'est une décision politique. Il y a quelqu'un qui a, enfin, un congrès, on a dit, bon, bah voilà, nos résolutions pour cette année, c'est on fait du libre et on arrête avec le logiciel propriétaire.
Et du coup, alors, qui dit décision politique dit débat. Voilà, est-ce qu'il a fallu quand même un peu convaincre? Est-ce que ça a été assez naturellement, bon, peut-être dans ce secteur, c'est peut-être un sujet qui est plus connu, on va dire, où les personnes sont un peu plus habituées à entendre parler de logiciels libres. Est-ce qu'il a fallu convaincre durement ou ça s'est fait facilement?
Moi, je suis arrivé après, donc je laisse Nadine répondre.
Ouais, je pense que c'est un peu en fil rouge dans le syndicat et c'est rappelé régulièrement. Pour autant, c'est vrai que tous les travailleurs et les travailleuses de l'informatique ne sont pas forcément des techos purs. Donc, c'est pas forcément des pratiques si courantes. Par exemple, on a des gens du conseil, on a des gens du logiciel, on a des gens d'un peu partout. Donc, tout le monde n'est pas forcément un adepte des outils. Et donc, c'est sans arrêt des choses qui reviennent en pointillé, en permanence. Mais voilà, ça reste un progrès permanent, quoi, nécessaire.
Oui,
c'est vrai, Nadine, la raison, on a aussi des gens qui sont un peu dans le hardware, qui sont dans les machines, il y a des gens qui branchent des câbles, qui sont... voilà, on n'est pas tous des ingénieurs, quoi.
Alors, avant ça, une question sur le webchat de Laurent. Cette décision d'orientation avait fait l'objet d'un vote ?
Oui.
Oui, en congrès, tout à fait.
Peut-être précision sur Solidaire, tout est voté, enfin tout est démocratique, il n'y a pas de chef qui décide pour tout le monde, c'est pas trop le genre du syndicat, quoi.
Oui, c'est une structure horizontale qui est censée en effet prendre ses décisions de façon large et pas par, il n'y a pas de Thomas, il y a des exécutifs et des choses comme ça, mais la décision est faite au niveau du conseil syndical dans les statuts de Solidaire Informatique. Et le conseil syndical en fait est représenté, enfin, et prend des décisions par des mandats qui sont donnés par les sections d'entreprise et sections territoriales, donc sous cette forme-là.
Alors du coup, une question que je me posais, c'est que qui s'occupe concrètement des systèmes, voilà, du serveur, etc. C'est des salariés, c'est des mandats menés par des adhérents ou adhérentes.
C'est ceux qui sont motivés.
D'accord.
C'est un peu ça, oui.
C'est ceux qui sont motivés qui ont un peu de
beaucoup,
temps.
Mais oui, ouais.
En ce moment, c'est Yanis et ça a été Manu pendant longtemps. On salue bien.
C'est
fort,
souvent des gens qui sont au bureau, qui viennent au bureau, qui prennent en charge un peu cette action-là. Ouais.
Et bon, j'imagine qu'il y a pas mal de compétences, parce que alors, il me semble que dans beaucoup d'organisations, il peut y avoir des problématiques si tout le système repose sur une seule personne qui serait la seule avec les compétences et les connaissances pour accéder au serveur. J'imagine qu'il n'y a pas forcément ce problème-là. C'est une question de motivation surtout.
Ouais.
Oui.
Ouais, motivation, en fait, gestion, du temps,
ouais. Gestion du temps.
Mais c'est effectivement.
La guerre aussi. Donc logiciel libre, donc oui, vous avez parlé du congrès avec une décision qui a été donc prise, donc et qui donne un poids politique, et ça effectivement c'est très important. Ben on parlait de d'engagement politique. Il y a des combats sur la liberté à l'informatique ou en général qui sont un peu au cœur de la guerre, qui sont au cœur du sujet de l'actualité plutôt. Et vous avez vu, voilà, il y a des communiqués sur votre site. Alors on peut penser, alors, là je vous laisse un peu carte blanche. Il y a différents sujets. On a vu vos engagements, alors pu voir une prise de position dans le cadre de la campagne Technopolis de la Quadrature du Net, voilà, notamment contre la loi sécurité globale, contre Amazon, qui, alors en, je crois en plus qu'il y a un syndicat aux États-Unis, ils sont en train d'essayer de monter un syndicat dans un entrepôt dans l'Alabama, et on voit une campagne d'Amazon anti-syndicale qui se mène, et ça effectivement c'est un combat très intéressant et qui me semble important. Vous avez pris position contre Stop Covid, donc voilà, des positions importantes qui sortent finalement de seule représentation de l'intérêt direct, on va dire, des travailleuses et travailleurs de votre secteur, mais qui sont des positions politiques. Est-ce qu'il y a un de ces sujets sur lesquels déjà vous voudriez...
Oui, moi je voudrais intervenir là-dessus, parce que comme on disait tout à l'heure, en début d'émission, on parlait des enjeux sociétaux qui sont très importants pour Solidaire Informatique. Bien sûr, on reste un syndicat de travailleurs travailleuses avec la défense des intérêts des salariés, il ne faut pas oublier, on n'est pas en train de se disperser uniquement sur des sujets sociétaux, mais ça fait partie de la société dans laquelle on veut vivre et travailler. Et ces aspects-là nécessitent qu'on ait des vraies interrogations au niveau du syndicat. Et notamment, tu évoquais, Étienne, la création de ce syndicat chez Google, dont on voit justement qu'il s'est constitué, et c'est peut-être un champ de développement du syndicalisme, développement au sens syndicalisation des travailleurs et travailleuses, c'est que ce syndicat-là, il s'est créé beaucoup sur des notions éthiques. J'en veux pour preuve que les gens qui ont lancé ce syndicat disent clairement qu'ils ont bâti Google, mais que c'est pas la société pour laquelle ils veulent travailler. Et donc c'est un syndicat qui souhaite en fait se positionner aussi beaucoup sur des problèmes éthiques et pas seulement sur des salaires et des conditions de travail. Et on est nous aussi dans ces enjeux-là. Quand par exemple, et je prends juste l'exemple d'Amazon, quand on s'oppose qu'il y en a des adhérents locaux qui agissent en ce sens pour travailler à l'opposition à l'implantation d'entrepôts d'Amazon, on est vraiment dans ces interrogations-là. Quelles sont les conséquences de la numérisation sur la vie des gens et qu'est-ce que nous, syndicats de l'informatique, devons poser comme question par rapport à notre microcosme, en fait, et les conséquences qu'il a.
Thomas ?
Ouais. Ouais, j'ajouterais aussi qu'on est aussi, enfin, on a la prétention entre guillemets de vouloir faire de l'éducation populaire, et en prenant des positions politiques sur Stop Covid, sur des questions éthiques et tout, on ramène aussi de la réflexion, du débat, de la discussion dans l'entreprise, parmi les salariés, parmi des gens qui, bah, dans la boîte, s'intéressent peut-être moins ou pas aux questions politiques. Et du coup, bah, on a la prétention de dire ouais, bah, c'est aussi un syndicat, c'est aussi un lieu pour réfléchir, pour se poser des questions, pour s'imaginer un monde meilleur. Et il y a des fois où ça touche évidemment ce qu'on disait tout à l'heure sur la retraite, ça touche évidemment nos problèmes directs, mais des fois effectivement c'est plus loin, c'est plus large, comme des applications comme Stop Covid, où effectivement bah, on n'est pas directement lié sur une action de travail, mais voilà. Mais en fait on veut ce débat, quoi. On veut qu'il y ait de la réflexion, on veut que les gens se positionnent, et on préfère des gens qui nous disent non, vous dites n'importe quoi, on n'est pas d'accord, plutôt que des gens qui se taisent ou qui se cachent les yeux, qui se...
Ça, et en fait, ça m'évoque, tu parlais des écoles d'ingénieurs qui étaient un espace peu politisé. Et en fait, ce que ça m'évoque, c'est bah, en fait, les entreprises sont finalement des endroits où on passe beaucoup de temps, où on agit socialement à travers notre travail. Et en fait, il y a tout un intérêt, c'est extrêmement important collectivement d'en refaire un espace politique, puisque ça a des impacts importants écologiques, dans les rapports interhumains, que ce soit voilà, sur l'égalité homme-femme, sur les problèmes de racisme, etc. Et donc, oui, c'est très important. Et en plus, on voit dans Amazon qui est une sorte de temple de l'exploitation, en plus qui utilise des logiciels, où le logiciel devient le pur outil de contrôle du travail. Nadine, je te passe la parole.
Oui, je veux bien compléter là-dessus, parce que c'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi que nous fassions notre trou critique de ce que produit produisent nos métiers. Nous sommes acteurs de ces outils-là, et donc il faut que nous nous interrogions et que les adhérents s'interrogent sur les conséquences de tous ces actes-là et de ce travail qu'on produit. À cet égard-là, par exemple, pour donner un exemple concret sur le congrès que nous allons avoir au mois de mars, il y a un débat conférence qui va se mener sur le capitalisme de surveillance. Clairement, on est acteur d'un certain nombre d'outils qui peuvent amener à ce mode de fonctionnement. Alors, pas parce que l'outil fait la société, parce qu'il y a des gens derrière qui ont des enjeux à mettre en place, à surveiller, etc., et pire, à gouverner. Hein. Et donc, c'est important aussi que la réflexion se mène au sein du syndicat sur ces aspects-là.
Clairement. Si, je peux parler d'un exemple concret. Dans mon entreprise, quand je suis arrivé, on nous donnait un ordinateur, on disait bah tiens, prends-le, fais ce que tu veux, installe l'OS que tu veux, et c'est ton ordinateur.
Système d'exploitation, OS, operating system.
Et oui, un système d'exploitation, voilà. Donc les gens installaient ce qu'ils voulaient, et voilà. Et en fait, suite à des rachats et des politiques un peu différentes, on nous a dit bah en fait maintenant vous avez plus vraiment le droit de choisir votre OS. Enfin, on laisse ceux qui sont sous Linux parce que quand même on veut pas se fâcher avec une partie des travailleurs. Mais par contre, on vous oblige à installer plein de logiciels de surveillance dans votre ordinateur. De Microsoft, etc., le MDM pour pas le citer, et ça a choqué énormément de développeurs, parce que la machine, ton PC, c'est ton outil de travail, c'est ce avec quoi tu travailles, et du jour au lendemain, on t'oblige à avoir des logiciels que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas, qui permettent de surveiller tout ce que tu fais, qui permettent aussi d'avoir un accès à distance. Alors ils te disent toujours que c'est pour des raisons de sécurité, c'est pour votre bien qu'on vous met une prison en interne de votre ordinateur, et c'est hyper problématique. Et du coup nous, en tant que syndicat, on a un peu gueulé à l'époque. Bon, on n'a pas toujours obtenu gain de cause. Mais ouais, on veut pas de ces logiciels-là qui sont des logiciels privateurs où on ne peut pas avoir les codes sources, et on espionne les salariés au sein des entreprises, quoi.
Tout à fait. Et alors en plus, ça c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'on défend le logiciel libre, cette idée qu'il ne faut pas être contrôlé par sa machine. Si un logiciel privateur nous contrôle, et avec le logiciel libre, bon, c'est nous qui contrôlons notre ordinateur. Et pour ramener ça peut-être au monde de travail, si on parle d'outils de travail, est-ce que les logiciels sont un des outils de travail qui peut être présent? Tout l'enjeu est de savoir si on a la maîtrise de cet outil de travail logiciel, ou si c'est finalement à travers cet outil. Enfin, cet outil sert à nous contrôler et à contrôler la manière dont on travaille. Et il me semble important, de manière générale, de permettre aux personnes qui travaillent d'être, enfin, c'est les plus à même de connaître leurs besoins, de déterminer la meilleure manière pour eux d'accomplir aussi leur travail, leur tâche ou leur mission de service public dans le cas du secteur public. Et en fait, là où je veux en venir, et ma question, c'est voilà, est-ce qu'en gros, c'est pas que pour les informaticiens, c'est pas que il faut pas que être informaticien pour que ce soit intéressant d'avoir du logiciel libre, parce que finalement tout le monde n'a pas forcément les connaissances pour bidouiller un logiciel. Par contre, tout le monde a un intérêt à pouvoir, enfin, est-ce que ce soit des logiciels libres pour pouvoir définir le besoin, pour pouvoir contribuer par d'autres manières et pouvoir avoir un outil de travail dont ils ont la maîtrise.
Tout à fait. Moi, j'ai l'exemple d'une copine à moi qui bossait au RH d'une grosse société. Un jour, elle a eu un différend avec son patron, où elle a compris que son patron organisait des trucs un peu frauduleux. Elle a commencé un tout petit peu à parler. Du jour au lendemain, Apparemment, son ordinateur était bloqué, elle n'avait plus accès. Et pourquoi ? Parce que dans son ordinateur, il y avait des logiciels qui contrôlaient... la sécurité de groupe avait fait des trucs qui permettaient de contrôler tous les PC à distance. Et du jour au lendemain, bloqué, plus de mail, plus rien. Voilà. Et donc ça, il y a un moment, voilà, il y a des logiciels qui contrôlent l'outil de travail de personnes. Et c'est des enjeux de pouvoir, quoi.
Nadine, tu souhaitais réagir ?
Non, pas particulièrement. D'accord. Parce que j'ai plein de choses essentielles qui m'ont été dites, plein
d'effets. Je sais pas si on peut y en dire, mais c'est vrai qu'il y a, tu as parlé, alors moi j'avais parlé d'Amazon, effectivement Google, donc dans le sein de Google, il y a eu des actions syndicales. Et effectivement, une affaire assez intéressante récemment, alors tu as parlé, voilà, des personnes qui ont commencé chez Google et qui souhaitaient que ça se passe d'une autre manière. C'est vrai, chez Google, il y a eu deux licenciements assez retentissants de personnes qui travaillaient sur l'éthique, notamment de l'intelligence artificielle. Et, peut-être que c'est pas une chose que vous avez suivi, mais, j'aimerais peut-être, si c'est un sujet que vous avez suivi, avoir votre regard, sinon on avance.
Désolé, c'est pas grave.
On n'en avait pas parlé. Bien sûr.
Je crois que la création de ce syndicat, en effet, est venue de désaccords fondamentaux sur des problématiques éthiques, en fait.
En un mot, c'est vrai que la question de l'éthique, notamment quand on travaille dans des sociétés de services où on est envoyé en mission chez d'autres prestataires, chez d'autres services, souvent, en tout cas pour moi, des grosses entreprises du CAC 40, c'est très compliqué quand t'es syndiqué de savoir où mettre ton éthique, quoi. Si je devais refuser toutes les sociétés qui ne sont pas éthiques, je sais plus où je travaillerais, quoi. Et donc c'est toujours un peu la question qu'on se pose, et genre, est-ce que je m'interdis d'aller bosser dans telle entreprise ou telle entreprise, et du coup je risque d'avoir aussi un petit peu des retours en me disant bah attends, on te paye quand même pour travailler pour d'autres entreprises, donc si tu vas pas, comment ça se fait?
Si je peux me permettre là-dessus, je pense que ça fait justement sa partie des missions des représentants syndicaux, enfin des délégués, des élus au CSE et autres représentants du personnel dans l'entreprise. C'est qu'on peut tout à fait imaginer qu'un salarié ait une grosse problématique pour aller travailler dans un secteur pour lequel il considère que ça heurte ses valeurs fondamentales. Alors c'est compliqué dans nos secteurs parce qu'un refus de mission clairement affirmé peut être une cause de licenciement, mais c'est ce que prévoit la convention collective en tout cas. Mais c'est des actions sur lesquelles les syndicalistes doivent intervenir, c'est-à-dire permettre à un salarié qui serait en incapacité d'intervenir dans une entreprise parce qu'elle a des valeurs totalement opposées aux siennes, qu'il puisse tout à fait être soutenu en interne dans l'entreprise.
Oui, très bien, merci. Alors, je veux juste préciser, parce qu'on a évoqué différentes choses, on a une page avec beaucoup de choses sont dites, on listera les liens, notamment, alors on a parlé effectivement de ce cas d'harcèlement sexiste et sexuel au sein d'Ubisoft, alors on a retrouvé des liens qu'on partagera pour les personnes qui veulent creuser. Laurent partage avec nous le cas d'une entreprise qui utilisait Suite Office 365 de Microsoft en tour de contrôle pour contrôler le temps de travail, donc il y a des exemples très concrets, des impacts très concrets de ces situations. Alors le temps, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Alors il y avait une question sur le salon, alors on va revenir à une action très concrète, à une actualité un petit peu. Est-ce que vous avez prévu des actions spécifiques pour la journée du 8 mars, qu'on rappelle la journée pour le droit des femmes?
Alors, on est solidaires traditionnellement agit en ce sens. Il y a des manifestations, il y a des actions. Je cacherai pas que Solidaires Informatique là doit aussi se positionner un peu clairement là-dessus. C'est vrai qu'on est en pleine préparation de congrès et que du coup, même si on communiquera forcément sur cette journée, on a déjà commencé à le faire. C'est un sujet important et qui est souvent, à mon sens aussi, et ça c'est une position personnelle, hein, mais dans les syndicats en général et dans le nôtre aussi, il faut aussi réfléchir à ça. On ne traite souvent pas suffisamment de ce sujet-là, notamment parce que la féminisation des syndicats, elle pose aussi problème, et pas seulement dans les entreprises dans lesquelles on est, mais aussi au sein du syndicat. Il faut quand même noter que notre secteur est moins féminisé, le secteur d'activité professionnelle, est moins féminisé que dans les années 80. Donc il y a un vrai problème. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, toutes les entreprises appellent sous couvert d'éthique à ce que les femmes rejoignent le secteur informatique, tout simplement parce qu'elles manquent de ressources et qu'elles ont besoin de chair fraîche, quoi. Mais syndicalement, je pense que c'est un sujet qu'on ne traite pas suffisamment et sur lequel on commence aussi à réfléchir de façon un peu plus importante parce qu'on a aussi un gros travail à faire de notre côté.
Tout à fait aligné avec Nadine, quoi.
Alors, je vais vous parler de la campagne d'Amazon anti-syndicale montée contre ce projet. Est-ce que, selon vous, Amazon a raison d'avoir peur de ce qui se passe dans cet entrepôt, de la syndicalisation de ces travailleurs-travailleuses?
Ils ont toujours raison d'avoir peur des syndiqués. Le but d'un syndicat, c'est de s'organiser justement pour défendre les intérêts. Les intérêts de la direction d'Amazon ne sont pas celles des salariés. Et donc, ouais, ils ont raison d'avoir peur. Et j'espère qu'on va leur prouver qu'ils ont peur et que, justement, ce syndicat pourra faire des trucs intéressants
Si je peux compléter, je pense que oui, tout ce qui rend visible des oppositions, la contestation d'un modèle de société, ne peut qu'on, il y aura des retours de bâton, on mettra en œuvre forcément tout ce qu'il faut. Il faut quand même noter que, par exemple, nos camarades de Sud Commerce et Services, qui sont donc implantés chez Amazon, ont quand même eu des actions fortes pour défendre les salariés dans la période de pandémie, là, puisqu'ils ont agi pour les conditions de travail des salariés. Et la justice a donné raison aux syndicats en l'espèce. On voit bien la façon délétère qu'a eu Amazon de réagir en arrêtant tous ses entrepôts alors que la décision de justice ne le demandait absolument pas. Tout ça justement pour porter préjudice à l'image des syndicats. Mais bien sûr que quelque part, ils ne sont pas complètement indifférents à la présence de syndicats, bien évidemment.
Ouais, c'est peut-être un message qu'on peut lancer, c'est syndiquez-vous, même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, même si vous avez l'impression que vous ne pourrez jamais obtenir tout ce que vous voulez. Et effectivement, peut-être qu'à la fin, on n'aura pas renversé le capitalisme et toute l'exploitation du monde. En vrai, de temps en temps, juste dire il y a des gens qui sont pas tout à fait d'accord avec vous, ça fait déjà changer énormément de... En tout cas, moi je le vois dans mon entreprise, le fait juste qu'il y a des syndicats et qu'on soit là et que sans forcément rentrer dans des batailles ou dans des bagarres, montrer juste que bah il y a des gens qui s'intéressent et qui sont vont peut-être pas être d'accord, et ben ça permet au minimum du minimum, ça permet une réflexion. Quand il y a personne qui s'oppose, il y a pas de réflexion.
Et j'appuie les propos de Thomas, même au-delà, parce que dans l'exemple de Sud Commerce et Services, peut-être que si Commerce et Services n'avait pas agi et qu'une décision de justice n'était pas tombée, il y aurait peut-être des gens, du fait des conditions sanitaires déplorables qu'il y avait chez Amazon, peut-être des gens qui seraient morts aujourd'hui. Enfin, il y a des gens qui auraient eu des problèmes de santé. Donc clairement, oui, les syndicats gagnent aussi des batailles. Donc se syndiquer, c'est pas inutile. Qu'il y ait des syndicats dans les entreprises, c'est pas inutile, bien au contraire.
De toute façon, je pense que c'est pas dans le monde du CELIB qu'on a besoin de convaincre de la force du collectif et de l'importance aussi de faire communauté. Alors notre échange va bientôt, on arrive sur la fin de notre échange, mais je voudrais quand même vous laisser le temps à chacun, à tous les deux de conclure. Est-ce qu'il y a un point, soit sur lequel vous voudriez revenir pour insister un peu, un sujet que nous n'avons pas abordé mais qui vous tenait à cœur, ce que vous voulez en fait. Thomas ?
Ouais, moi j'avais noté, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, quand tu as posé la question à quoi sert un syndicat, en fait souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des points légaux, techniques, et du coup les syndiqués en général connaissent un tout petit peu en droit du travail, parce que souvent ils ont eu des formations, parce qu'ils ont des jours prévus pour ça, pour se former sur les questions de droit du travail, et surtout le fait que quand on est dans un syndiqué, on met de l'argent dans une caisse commune, et avec cette caisse commune, on peut, en tout cas on a ça celui d'informatique, on peut accéder à des conseils d'avocats spécialistes en droit du travail, qui sont des experts hyper formés, hyper calés, et qui connaissent bien mieux le droit du travail que n'importe qui dans l'entreprise. Et du coup, ce syndiqué, il y a aussi un truc un peu pratico-pratique, c'est d'avoir des réponses juridiques quand vous en avez besoin. L'argent aussi qu'on utilise dans le syndicat, elle sert aussi à constituer des caisses de grève, et on met un peu de sous de côté tous les mois, et le jour où il y a un problème, le syndicat il peut aider les copains qui veulent faire grève ou qui veulent un peu taper du poing sur la table. Et ça, c'est une arme hyper forte et hyper intéressante. Et comme on a la chance à Solidaire Informatique d'être, je dis, un peu riche, entre guillemets, parce qu'effectivement, le milieu de l'informatique, c'est pas le milieu qui se met en grève toutes les cinq. Trop souvent, donc on a des salaires un peu plus hauts que aussi la moyenne des Français, on a un peu de sous et du coup on donne un peu à des assos et d'ailleurs des assos libristes et à d'autres salariés qui en ont besoin. On a fait un petit don pour d'autres gens qui sont en galère, et donc la solidarité elle s'organise aussi par l'argent, quoi. C'est ça que je veux dire.
Nadine ?
Ouais, alors moi je voudrais peut-être intervenir sur deux points. C'est vrai que la période là, actuelle a été aussi néfaste à quand même un certain nombre de travailleurs et travailleuses, notamment avec des fins de contrat abusives, des fins de période d'essai abusives, etc. Je ne sais pas si c'est en lien direct, mais en tout cas sur cette période, on a noté quand même une progression de l'adhésion. Donc ouais. Preuve s'il en est que les conditions qui se durcissent dans le secteur informatique amènent aussi des gens à se reposer des questions. Et puis en message un peu de motivation, je dirais que se syndiquer, quelquefois, si c'est une entreprise, c'est monter en compétence sur un certain nombre de sujets qui concernent nos droits. Puis s'engager syndicalement, c'est trouver aussi beaucoup de motivation au fait de défendre les intérêts des autres et apprendre énormément. Donc voilà.
Et puis c'est sympa.
Que je voulais passer.
Juste un dernier mot, c'est sympa aussi, on se fait des copains, enfin c'est con, mais...
Non, la convivialité, je pense que c'est hyper important.
Il y a une convivialité qui est forte aussi dans le syndicat, et quand ça se passe mal au boulot, le fait de revoir les copains, c'est toujours super sympa.
Comme on dit, je crois que la lutte doit être heureuse aussi pour produire ça.
La lutte doit être heureuse, exactement.
La lutte joyeuse. Écoute, un grand merci à tous les deux, ça a été un vrai plaisir d'avoir cet échange avec vous, donc... Nadine Stéphane et Thomas Luquet, Solidaire Informatique. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée et puis courage et force à vous.
Merci beaucoup.
Alors nous allons faire à présent une pause musicale. Nous allons écouter le dernier des trois morceaux sélectionnés pour nous par Captain de son nouvel album, Flamme. Il s'agit de Grève Angélique. Nous on se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Cause Commune.
Sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres si vous n'usez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix.
Écoutez Grève Angélique par Captain, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.org. On remarque effectivement qu'à la fin, les anges n'obtiennent pas de gain de cause, mais comme vous avez remarqué Thomas avant l'émission, voilà, ils ne sont pas syndiqués.
Les syndicats solidaires, ils auraient obtenu des vraies, enfin, leurs revendications, quoi. Ah, voilà.
Et voilà, tout est dit. Alors vous écoutez Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu de l'April, nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons donc poursuivre avec la rediffusion d'une chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, une chronique sur des mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. Enregistrée en mars 2020 par mon collègue Frédéric Couchet, et je précise à l'époque voilà, que Véronique était alors vice-présidente de l'association. On se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours en direct sur causecommune.fm, La Voix des Possibles.
Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. c'est la chronique Partager est bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Le sujet du jour, mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre et pourquoi c'est leur devoir de le faire. Véronique, on t'écoute.
Oui, Fred, effectivement, il faut prendre son souffle pour lire ce titre qui est quasiment un titre à l'Alexandre Dumas. Si j'avais à faire un commentaire de ce titre très long, je dirais que il y a de la part de Richard Stallman, l'auteur de ce texte, la volonté de démontrer que si les gouvernements ayant à leur portée des mesures ne les mettent pas en œuvre, alors il y a une faute morale, c'est-à-dire que les gouvernements ont le devoir de les adopter si ces mesures sont nécessaires dans le cadre du respect et des citoyens et des gouvernements eux-mêmes. Un gouvernement qui se respecte mettra en œuvre ces mesures. Alors ce texte, par conséquent, est beaucoup plus qu'un texte éthique, parce que éthique veut dire simplement avantageux, intéressant, qui obtient le maximum de gains avec un minimum de pertes. Ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un texte moral. Alors je dis bien moral et non pas moralisateur. C'est-à-dire que ce texte ne fait pas la leçon. Il est moral au sens où il rappelle que prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs. Il s'agit de tout faire pour ne pas les nier comme humains. Il faut les respecter. Alors bien sûr, il peut y avoir des bénéfices politiques. Effectivement, peut-être que un gouvernement exemplaire reste au pouvoir plus longtemps. Mais il ne s'agit pas simplement d'un texte au sens d'une manière de faire pour persister. Il s'agit essentiellement d'une tâche que le gouvernement va donner à lui-même. Alors je cite, c'est dit dans l'introduction, « La mission de l'État est d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Certes, l'État doit aussi veiller à sa souveraineté et à sa sécurité. Il doit aussi faire des économies, privilégier et dynamiser l'industrie locale, des services logiciels. Certes, on le voit, l'argumentaire est aussi stratégique, il est aussi économique, mais il est d'abord humaniste, comme le montre d'ailleurs la chronologie des points évoqués. Richard Stallman part de la notion d'éducation. Autrement dit, il pose que les relations de l'État avec le public doit avoir en vue une souveraineté. Alors, une souveraineté informatique, une souveraineté écologique, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle le gaspillage, le caractère non recyclable de certains choix logiciels. Il y a bien des considérations d'optimisation. Il va évoquer la neutralité technologique des États, pour d'ailleurs inviter à les dépasser. Alors, quelle teneur de ce qui est proposé pour l'éducation ? Pour la philosophie GNU, il s'agit de n'enseigner que le logiciel libre. Alors, bien sûr, il y a un bénéfice secondaire qui n'est pas mince, à savoir ceci garantit l'avenir politique d'une nation. Mais au-delà de ce bénéfice secondaire, il y a surtout le devenir autonome des individus. Voilà ce qui est indiqué. Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance, ce qui est contraire à la mission de l'école. Alors, partie de ce foyer qu'est l'émancipation, il y a un deuxième point qui examine cette fois les relations de l'État avec le public. Alors, on évoque des politiques publiques qui sont souvent cruciales. En effet, lorsqu'on utilise le logiciel libre, il y a des conséquences pour les individus et pour les organisations. Et donc, il est très important de ne pas obliger les particuliers à utiliser un programme non libre. Sinon, ça veut dire qu'il y a une rupture d'égalité devant le service public. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en parler au défenseur des droits actuel, qui est très sensible à cette question de l'équité des citoyens devant l'État.
Précisons que il s'agit
absolument de Jacques Toubon. D'où la proposition de ne distribuer que du logiciel libre, y compris lorsqu'il s'agit de logiciels utilisés à l'école. Alors, récemment, il a été question, dans différentes tribunes, de matériel distribué déjà prédéterminé pour aller vers du logiciel non libre. Il a été question aussi de sites web de l'État. Il serait fondamental d'y accéder seulement avec des logiciels libres. Bon, il se trouve, je donne un exemple, que comme enseignante, on m'a proposé d'utiliser un programme qui est Éducarté. Éducarté qui propose aux enseignants, pour leur classe, de disposer des missions éducatives. Or, expérience amère, malheureuse, il se trouve qu'avec Éducarté, il faut utiliser Flash. Ce à quoi je n'ai pas pu me résoudre, donc j'ai écrit à Éducarté, et mon courrier est en attente de réponse. Pourquoi, par conséquent, proposer des formats et des protocoles libres, non seulement les protocoles de communication, mais aussi les liseuses qui interviennent dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires, sont encore à libérer. Il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, puisqu'il s'agit de libérer les ordinateurs des licences. Mais là encore, lorsque ce point est évoqué dans le texte, c'est la plupart du temps la vente liée qui prévaut. Donc ce n'est pas simplement une question d'argent. Cette contrainte est inique d'imposer, d'utiliser des ordinateurs avec des licences. Et en plus, certains dispositifs empêchent le recyclage, le reconditionnement des ordinateurs de seconde main. Et en ce sens, l'État doit se mobiliser pour parler d'indice de réparabilité, pour parler de recyclage et de cohérence écologique. Le point qui est examiné ensuite est celui de la souveraineté informatique. Il est précisé que l'État doit garder la main sur ce qui le concerne. Sinon, il est subordonné à des entités privées. Migrer vers le logiciel libre est ainsi un axe fort à cette même antenne. Il a été question de la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre, ce qui permet donc de développer des solutions informatiques tout à fait cohérentes lorsqu'un État est un État qui s'impose le devoir de respecter ses citoyens. D'où, deuxième point, il se trouve que souveraineté informatique est traitée doublement. Il y a dans ce texte une préconisation du contrôle de l'État sur les tâches qui sont de son ressort. C'est-à-dire que l'État doit contrôler ses ordinateurs et maîtriser si l'ordinateur n'est pas portable, le lien qui permet son utilisation. Il faut influencer, par conséquent, le développement du logiciel libre, ne surtout pas encourager le logiciel non libre. Il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés entre les États et les GAFA. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure du gaspillage. Vous avez le rappel en fin de texte que les ordinateurs, pour ne pas être mis au rebut, doivent pouvoir être débloqués et surtout ne pas être verrouillés par des dispositifs qui rendraient impossible l'installation d'un logiciel libre. Le dernier point est tout à fait inspirant pour le professeur de philosophie que je suis, puisque dans ce texte, on parle bien de neutralité technologique, mais on dépasse aussi cette expression. Je cite, « Il est dit que l'État ne doit pas imposer de préférences arbitraires sur des choix techniques, mais pour autant, il ne doit pas être neutre au sens d'indifférent. L'État ne peut pas être indifférent. » Je cite, « Seuls ceux qui désirent mettre un pays sous leur joug pourraient suggérer que son gouvernement soit neutre en ce qui concerne sa souveraineté et la liberté de ses citoyens. » Il y a des formes de neutralité qui sont des formes de refus de se pencher moralement sur le respect des citoyens. Autrement dit, et là je me réfère à deux expressions d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », il y a pour les gouvernements des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Et, par exemple, l'April peut en être le vecteur.
Eh bien, écoute, merci Véronique. Je vais préciser que la Gendarmerie nationale, ben, les gens qui veulent écouter le podcast, c'est celui, l'émission du 3 septembre 2019, l'émission 34. Et pour la partie gaspillage, recyclage, nous avons consacré une émission à la loi anti-gaspillage le 7 janvier 2020. C'est l'émission 48, donc que vous pouvez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm. C'était la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle journée à toi, Fred.
Nous venons d'écouter la chronique Partagée et bon donc de Véronique Bonnet sur les mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre, enregistré en mars 2020. Vous retrouverez les références utiles sur la page consacrée à l'émission sur april.org. Nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, le prochain April Camp aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 mars 2021 en distanciel. Un April Camp étant où tout le monde, membre ou pas de l'association, peut participer en fonction de son temps disponible, de ses compétences, de ses envies. Voilà. C'est des gens qui se retrouvent pour échanger ensemble sur leurs envies, leurs actions, etc. Et tout le monde est donc le bienvenu. Une campagne au niveau européen que je trouve intéressante, Reclaim Your Face, reprenez possession de votre visage. C'est une campagne à laquelle participent notamment la Quadrature du Net et Edry qui est une association importante de défense des libertés informatiques au niveau européen, et avec notamment une pétition pour exhorter, je cite, la Commission européenne à réglementer strictement l'utilisation des technologies biométriques afin d'éviter toute atteinte injustifiée aux droits fondamentaux. La page de la campagne reclaim-yourface.eu, bien sûr, on vous mettra la référence sur le site de l'April. Une nouvelle réunion du groupe sensibilisation de l'April, toujours le jeudi, donc ce jeudi 4 mars, de 17h30 à 19h30, toujours à distance, toujours ouvert à tous et à tous, membres ou pas de l'April. Il sera notamment question de la boussole du libre, un outil pour orienter les personnes souhaitant reprendre le contrôle de l'informatique. D'autres événements à retrouver sur l'agenda du libre, comme d'habitude. Et vous retrouvez bien sûr, voilà, comme je le disais, les liens sur la page consacrée à l'émission april.org. Notre émission se termine. Je souhaite remercier bien sûr les personnes qui ont participé à l'émission, Capitaine, alias Clément Houdot, Nadine Stéphane, Thomas Luquet, Véronique Bonnet, Frédéric Couchet, au manique de la régie aujourd'hui Adrien Bourmeau pour sa première réalisation sans faute à la régie. Merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Olivier Imbert, Languin, Sylvain Kotzmann, bénévole de l'April, Olivier Gréco, directeur d'antenne de la radio, et merci également à Quentin Gibault, bénévole de l'April, qui découpe le podcast complet en deux podcasts individuels par sujet. Vous retrouvez, comme je vous l'ai dit, voilà, toutes les références utiles sur le site de l'association. Vos remarques et questions sont bienvenues à l'adresse contact@libravou.org. La prochaine émission aura lieu le mardi 9 mars 2021, 15h30. Notre sujet principal sera QGIS, un logiciel libre de système d'information géographique. D'ici là, portez-vous bien.